Socialement Vôtre, votre chronique du travail social dans l'Ain, proposée par l'ANCEIS. Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui sur les ondes de Radio B pour une nouvelle émission de Socialement Vôtre. Cette chronique abordera le problème du mal-être au travail. Et pour étayer cette thématique, nous accueillons Antoine Guillet.
Bonjour. Effectivement, Antoine Guillet, je suis formateur à l'ANCEIS de Bourg-en-Bresse et j'ai une autre activité qui est celle de la recherche sociologique à l'Université Lumière Lyon 2. Et donc, mon sujet de thèse de doctorat en sociologie est effectivement la question du mal-être au travail, autrement appelé risques psychosociaux dans les termes habituels. Terme qui a été beaucoup mis en avant, qui est apparu sur la scène publique à partir du début des années 2000, avec ce que tout le monde a généralement en mémoire, c'est-à-dire la vague de suicides qui a pu avoir lieu chez Orange, anciennement France Télécom. Alors c'est vrai que cette question-là des risques psychosociaux, souvent, elle est depuis quelque temps discutée ou discutable, à la fois parce qu'on a tendance aujourd'hui à opposer un petit peu les conséquences physiques et psychiques des risques au travail, parce qu'on a une porte d'entrée plutôt sur les conséquences de tout ça que sur les causes, une difficulté à revenir aux causes du problème. Mais la chronique, elle va plutôt viser en fait à revenir sur plusieurs aspects de ce problème-là, qui est devenu un problème public en France, et pas que en France. Et du coup, je me suis demandé qu'est-ce que ça voulait dire aujourd'hui, ce problème public qui prend de plus en plus d'ampleur, qu'est-ce qui vient dire de notre société néolibérale. On va aussi aborder la question de l'arrêt de travail, qui est souvent un passage fréquent et qui peut être une épreuve pour les gens. Le fait que souvent on est sur une prise en charge très médicalisée ou médicalisante des maux du travail. Et puis aussi, on va se demander comment on traite ce problème-là aujourd'hui, quelles sont les tendances aujourd'hui dans la manière de prendre en charge ce problème-là, et notamment, on va essayer de conclure sur la question du coaching.
Alors, on remarque souvent que les personnes se sentent coupables de ne pas ou plus être capables.
Très joliment dit, Elina. Comme tout bon doctorant en sociologie, on aime bien se référer à des auteurs. Il y en a un en particulier que je trouve intéressant par rapport à ce que tu dis, c'est Alain Ehrenberg, donc, qui est un sociologue qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « La société du malaise », que je recommande à toute personne qui s'intéresse au sujet. Et ce qu'il remarque, et je trouve ça important sur la culpabilité, justement, il faut en revenir au fait qu'on évolue en fait dans un idéal collectif qui est celui de la liberté, et en particulier de la liberté de choix individuel, choix dans sa vie, des choix d'orientation professionnelle, des choix de carrière, des choix de ce qu'on souhaite pour ses enfants, etc. Une capacité d'agir par soi-même et du coup, en fait, une nécessité d'être capable de s'affirmer. Et donc là, on est sur quelque chose qui est à la fois une norme, donc une contrainte, mais qui est aussi une valeur, parce que chacun la désire, quoi. Et là, on a un problème. C'est justement qu'on n'est plus en capacité de répondre à cette injonction-là, qu'on n'y arrive plus, qu'on ne sait plus. Et c'est un petit peu ce qui se passe justement autour de la problématique du travail, c'est que la responsabilité de chacun est tellement mise sur le devant de la scène, l'autonomie est tellement le style d'action qui est valorisé, que des fois qu'on n'est plus capable de répondre à cette injonction-là, il y a un malaise qui survient, un mal-être au travail qui s'installe. Et souvent, l'individu, dans ce système-là, tend à se sentir coupable de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir répondre à cette injonction à s'assumer. Et j'ajouterais que on remarque, d'ailleurs, dans la manière dont on essaye de prévenir ou de prendre en charge cette problématique-là de la souffrance au travail, on a une tendance aussi à individualiser le problème en lui-même. Par exemple, une tendance en France à catégoriser les personnes. Donc, par exemple, est-ce que on est sur quelque chose qui est normal, qui commence à être pathologique? Est-ce que les gens sont aptes ou inaptes au travail? Est-ce qu'un arrêt de travail est justifié ou pas justifié? Et du coup, ça se remarque aussi dans ces petites phrases que chacun a peut-être déjà pu entendre, mais quand quelqu'un commence à se sentir mal au travail, on va se dire, oui, mais est-ce qu'il n'est pas un petit peu plus fragile que les autres? Pourquoi lui souffrirait et pas son collègue qui a le même travail pourtant? Ou alors, oui, mais s'il commence à se plaindre au travail ou à être désagréable, c'est parce qu'il a des problèmes personnels en ce moment. Voilà. Donc tout ça relève un peu de la catégorisation. Et en fait, ça amène à. Le problème, c'est que ça amène souvent un peu à dépolitiser le problème, ou en tout cas à ne jamais interroger l'organisation du travail, quoi. Et donc à le prendre sous un angle surtout médical ou psychologique. Ce qui tend à renforcer, c'est pour ça que je dis ça, c'est que ça tend souvent à renforcer ou à remettre encore plus de culpabilité sur la culpabilité qui est déjà là au départ. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette problématique-là du mal-être au travail et cette culpabilité, ça nous montre que on est dans une société qui a placé en fait en son cœur, en son centre, l'incertitude sur où aller, quel sens à mon travail. On parle aujourd'hui de « brown out ». C'est un peu le dernier terme qui est apparu et qui justement montre un peu cette crise de sens qui n'est plus donnée à l'avance. Donc il y a beaucoup d'indétermination et de vulnérabilité et qui est un peu un dénominateur commun à tous parce que la souffrance au travail, c'est quelque chose aujourd'hui qui peut toucher n'importe qui, quel que soit son milieu professionnel, quel que soit son niveau social, quel que soit son parcours familial, personnel. Et donc, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'on a beaucoup de problématiques sociales, comme ça, dans un système individualiste, comme je l'ai décrit, qui en fait s'exprime par le biais de petits symptômes à l'échelle des personnes, comme ça, de quelque chose qui déraille dans le parcours d'une personne.
Alors, quel genre de petits symptômes, par exemple?
Par exemple, c'est « je trouve plus de sens à mon travail ». C'est tout d'un coup, je n'arrive plus à trouver d'équilibre entre mon travail et ma vie personnelle. Je ne m'entends plus avec mon manager, je ne comprends plus ce qu'on me demande au travail, etc. Donc, sous l'angle d'une plainte. Et en fait, quand on creuse, ce que font les cliniciens du travail, quand on creuse, on voit que derrière, ce n'est pas uniquement un problème individuel, justement. Mais souvent, ils s'expriment sous l'angle, comme ça, d'un problème individuel. Et ça, c'est très symptomatique de la société que j'ai décrite juste avant. C'est pas par hasard que la santé mentale est devenue un enjeu majeur, et pas que sur les questions du travail, c'est parce qu'il y a beaucoup de problèmes de santé publique, beaucoup de problèmes sociaux qui en fait surgissent ou apparaissent sous l'angle comme ça de symptômes psychiques, d'enjeux de santé mentale, et qui sont en fait des enjeux bien, bien au-delà de la santé mentale, qui sont des enjeux sociaux, politiques, voilà. Mais la santé mentale est devenu un peu ce qu'Annenberg appelle un langage contemporain, c'est-à-dire une manière d'exprimer des problèmes sociaux, des tensions, qui ont souvent tous pour origine ce que je disais juste avant, c'est-à-dire cette injonction à l'autonomie, à la réussite, à l'épanouissement personnel. Voilà, certains sociologues, dans les plus critiques, parlent d'apicratie, donc happy, heureux, pour nommer ça. Et d'ailleurs, il y a des sociologues, dont Marc Loriol, j'en cite un autre, qui étudiaient justement là, un peu la plainte au travail. Comment elle arrivait, à quoi elle sert, qu'est-ce qu'elle provoque sur les lieux de travail. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt aujourd'hui l'enjeu, vu qu'on est sur quelque chose qui est très individualisé, comment on pourrait essayer de relier les vécus au travail des uns et des autres. Et dans mon enquête de doctorat, j'observe notamment au sein du service social de l'assurance maladie, par exemple, des actions collectives, des groupes de parole, des espaces, on essaye de rassembler des personnes qui, là, en l'occurrence, sont en arrêt de travail pour un même motif, pour qu'ils puissent se rendre compte à quel point ce qu'ils vivent est commun à beaucoup d'autres. Et donc, déculpabiliser et mettre un petit peu de sens à ce qui leur arrive, quoi. Voilà.
Beaucoup de gens passe par l'expérience de l'arrêt de travail. À quelles difficultés se confrontent-ils?
Alors effectivement, le parcours de beaucoup d'individus alors que ça va du malaise jusqu'à l'épuisement ou le burn-out, beaucoup d'individus en fait ont comme étape nécessaire je parle vraiment d'étapes nécessaires, l'arrêt de travail. Et effectivement, l'arrêt de travail est souvent dans l'esprit de tous un moment où on se repose, où on retrouve de l'énergie, où on, comment dire ça, où on essaye de se rassembler. Voilà. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, moi, ce dont je m'aperçois dans l'enquête, c'est que l'arrêt de travail est aussi une succession d'épreuves. Voilà. Alors, à plusieurs niveaux, le premier niveau, c'est déjà, quand on est sur une situation de souffrance au travail, c'est que les personnes vont devoir faire la preuve qu'elles sont malades. Ce que j'entends par là, c'est que le diagnostic, il est discutable sur un sujet comme ça. Est-ce que vous voyez un psychiatre ou pas ? Alors, si vous en trouvez, hein, évidemment, mais si vous n'en trouvez pas, c'est que peut-être vous n'êtes pas si malade que ça. On se méfie beaucoup, surtout les médecins conseils de la Sécurité sociale, dans les consignes qu'ils ont, hein, se méfient beaucoup de tout ce qui va être médecine parallèle, de leur point de vue, ou typiquement, je vois un énergéticien, je vois un psychologue, mais qui n'est pas clinicien, je refuse un traitement médicamenteux. Voilà. Toutes ces choses-là vont venir donner de mauvais signaux à l'assurance maladie dans le cadre des contrôles de l'arrêt de travail. Et donc, il y a cette nécessité de faire la preuve qu'on est bien malade. Voilà. Sauf que beaucoup de personnes disent, mais c'est pas moi le problème, c'est mon employeur. C'est ce qui se passe au travail, c'est le management par objectif, c'est la pression qui est mise au travail, etc. Derrière ce contrôle de l'arrêt de travail, il y a aussi une incertitude du temps qu'il reste à être en arrêt. Pendant combien de temps encore je vais pouvoir me reposer ? Est-ce que j'ai le temps de faire un bilan de compétences ? Est-ce que j'ai le temps de penser une réorientation professionnelle ? Sachant que je ne sais pas combien de temps je peux être encore en arrêt. À quel moment je reprends contact avec mon employeur, etc. L'arrêt de travail, c'est aussi une reconfiguration du quotidien où, en fait, souvent des personnes qui étaient travaillaient à temps plein, qui étaient tous les jours sur leur lieu de travail, se retrouvent à la maison. Ça reconfigure les relations de couple, les relations avec les enfants, la répartition des tâches, souvent genrées dans le couple. Ça a aussi un gros impact pour les personnes qui vivent seules, qui avaient beaucoup investi, par exemple, le travail, qui se retrouvent seules chez elles. Il y a le regard social du voisinage, de la famille, des amis. Aller dire à un dîner entre amis, ben non, en ce moment, je suis en arrêt, ça ne va pas trop au travail. Il y a comme un froid, on passe à un autre sujet. Voilà, donc c'est aussi une reconfiguration de beaucoup de choses. Et puis, derrière l'arrêt de travail, il y a aussi l'enjeu, une injonction à se remobiliser. On parle de remobilisation professionnelle dans le langage de l'assurance maladie. Et donc, l'arrêt de travail est aussi un endroit où, certes, vous pouvez vous reposer un petit peu, mais par contre, surtout si on a un doute sur le diagnostic, il va vite falloir se projeter sur l'après. Arrêt de travail. Donc l'arrêt de travail, alors pour ceux qui nous écoutent et qui l'auraient vécu, c'est, je pense que ça peut résonner pour eux. Il y a vraiment une fausse idée de ce que peut être l'arrêt de travail qui est aujourd'hui véritablement une épreuve pour les gens, quoi.
Justement, comment est-ce qu'on accompagne ces gens ? Comment et par qui sont-ils entourés et soutenus ?
Alors, aujourd'hui, à la fois, il y a des politiques de santé mentale qui sont largement développées sur ce qu'on appelle la santé au travail. On a des services de santé au travail, alors soit qui sont internes aux entreprises, soit qui sont inter-entreprises. Voilà, mais chaque entreprise doit adhérer en fait et faire appel à un service de santé au travail qui est composé aujourd'hui, qui est pluridisciplinaire, hein, qui est composé de médecins, d'infirmiers, de préventeurs, ce qu'on appelle les préventeurs en risque professionnel, de spécialistes dans différents risques, etc., d'assistants sociaux, de psychologues du travail, et qui donc sont souvent, qui à la fois reçoivent individuellement les personnes qui le demandent, mais ont de plus en plus vocation, même s'ils n'ont pas toujours les moyens, d'aller faire des actions dans les entreprises de prévention. Voilà. Donc il y a deux niveaux. Il y a le niveau individuel et puis collectif. Il y a dans les entreprises et en dehors. Mais il y a deux tendances dans la prise en charge du mal-être au travail aujourd'hui que je voudrais souligner un peu en conclusion. La première, c'est une tendance à médicaliser, en fait, la prise en charge de ce mal-être. On peut remarquer un peu une extension de l'expertise médicale sur ces questions-là, alors qu'en fait, c'est une question au-delà de l'aspect médical, ça peut arriver sous cet angle-là, qui est véritablement politique, sociale. Et je crois qu'il y a un vrai enjeu justement aujourd'hui à repolitiser un peu ce problème-là. Mais le problème, c'est que le repolitiser, ça veut dire remettre en question un peu l'organisation du travail et donc l'organisation ou le rapport capitaliste au travail, quoi. Donc on se heurte quand même beaucoup à cette difficulté-là. Le traiter à un niveau individuel et psychologique, d'accord. Remettre en question la manière dont on travaille, c'est encore un petit peu compliqué. Et l'autre tendance, c'est le développement du coaching en entreprise. À l'heure où chaque individu doit effectivement développer son savoir-être, s'épanouir au travail, s'adapter. On voit le coaching qui s'appuie beaucoup sur des techniques de développement personnel, de psychologie positive, de neurosciences aussi, de plus en plus. Le coaching a beaucoup de succès parce que justement, il vient répondre à des individus qui se disent « Mais comment je vais faire pour me remobiliser, pour retrouver un sens à mon travail, pour redevenir performant ?» Le coaching apporte des réponses à ça, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est des réponses qui participent au problème ou est-ce que c'est des réponses qui sont une partie de la solution, quoi. C'est un peu l'enjeu aujourd'hui.
Eh bien, je remercie Antoine Guillet d'avoir animé cette chronique. C'est la fin de cette émission. Je vais faire un petit point maintenant sur l'agenda. Si les métiers du social vous tentent, nous vous invitons aux portes ouvertes de l'ENSEIS au 48 rue du Peloux à Bourg-en-Bresse, qui auront lieu le samedi 18 janvier et le samedi 8 février 2025 de 9h à 12h30. Et nous serons présents sur différents forums des métiers, dont au Parc des Expos de Mâcon le 23 janvier de 9h à 17h. Et sinon, on se retrouve ici le deuxième vendredi de chaque mois et en podcast sur radio-b.fr. À bientôt.
Socialement Vôtre, votre chronique du travail social dans l'Ain, proposée par l'ENSEIS.